Bon midi, bienvenue à l'émission On en jase, il est midi une minute. Merci à Max Larouche pour son point de Max avec Sam Tremblay, Michou en direct du Salon de l'Auto. Ce sera ça pour le reste de la semaine, de 10h à midi. Vous voulez entendre parler de voiture, vous voulez entendre parler d'actualité. La meilleure émission, c'est le point de Max, Sam Tremblay, Michou et sans l'ombre d'un doute, le meilleur chroniqueur automobile. Donc vous avez un 2 pour 1 parfait. Après nous, dans En jase, évidemment, ce sera le retour de Gravel. Pour cette semaine, Denis est en vacances. C'est avec Antonine Iaccarini, Véronique Bergeron et également Audrey Pinchot. Antonine Iaccarini, que je vois devant moi, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Je tiens à te féliciter pour ton excellent travail hier dans le retour.
Merci.
Pour les bouts que j'ai écoutés.
Non, c'est vrai. Plaisir. C'est juste du plaisir.
Excellent, excellent micro sur Love is Blind. Je connaissais pas cette émission-là.
Bon, écoute.
Tu parles de des énergumènes, oui.
Bon, premièrement, je tiens à dire que ça me sort de ma zone de confort de faire, disons, des interventions sur des téléréalités dans d'autres émissions. Mais évidemment, je n'aime pas que la politique dans la vie. Donc, ça me fait plaisir. Ça me change le mal de place, comme on dit. Et Love is Blind, je suis très surprise que tu n'aies jamais écouté ça. C'est quand même la 10e saison, Jeff.
Ben, exactement. Ben, ce qu'il faut comprendre, dans ma vie personnelle, j'ai pris énormément de retard sur ce genre de série-là. J'ai recommencé à écouter des séries cette année quand on s'est installé Val et moi dans notre maison. Et là, ben, on dirait que quand je vois une série qu'on est rendu à 9e saison.
Ah, tu dis c'est trop tard.
Exactement.
J'ai manqué le
bateau. Fait que là, j'en
pogne des nouvelles. Mais c'est le genre de série que tu peux prendre n'importe quelle saison.
Ben, c'est
ça
ce que
ne
j'ai...
se suit pas.
C'est ce que j'ai compris hier avec le micro d'Anto que je me dis je pourrais écouter la 10e pour. Comment il s'appelle là, le personnage, l'énergumène, là, que
Chris.
La médecin est pas assez belle pour lui.
Chris, c'est le gars qui dit que sa fiancée ne fait pas assez de sport.
Ouais,
mais il y a
ça.
Aussi Alex.
Ouais, qui a une vie qu'on ne comprend pas trop
on
comment il a fait.
On ne comprend pas trop. Donc, oui, tu peux écouter ça, mais t'sais, honnêtement, c'est le genre de télé-réalité où tu mets ton cerveau à off. J'ai quand même des recommandations plus intelligentes si jamais tu veux plus te cultiver.
Non,
mais avec tout ce qui se passe, là, ça fait du bien. Puis moi, j'en avais parlé à Max dans ma chronique de ce fameux... gars qui dit à une médecin hyper brillante, qui est en forme en passant, là,
ben
qui est physiquement en forme, qu'habituellement, il y a mieux les filles qui font du pilates 24 heures sur 24, juste pour dire « Hey, sérieux? » On est rendu là, mais au-delà de ça, c'est les commentaires. Les commentaires qui prenaient la défense de la fille, ils me faisaient mourir de rire.
Il y a eu plein de mimes aussi. Mais ce gars-là, en passant, la conséquence de tout ça, je vois pas comment il peut se remettre
en couple.
En termes de réputation.
Et en couple.
Ça va être sûr.
Entièrement raison. Alors, félicitations pour ton beau travail.
Merci.
Aujourd'hui, à l'émission, on va encore une fois parler énormément de cette guerre en Iran. On va en parler notamment avec Barahan Banyamadi, qui est une artiste d'origine libanaise qui a quitté le régime. Elle a dû passer devant les services secrets là-bas. Évidemment, elle a énormément de blessures psychologiques. Elle va nous parler de ça aux alentours de 12h40. Il n'y a pas Pascal CV également, on va en parler avec Rémi Villemeux, qui s'est entretenu avec une journaliste. Et là, Pascal, tu me corriges, je ne dis pas bien le nom, mais c'est Nazila Naroufian. C'est une militante pour les droits civils, c'est une prisonnière politique, c'est une journaliste iranienne. Tu vas nous présenter des extraits de ça avec Rémi Villemeux. On va faire réagir notre ami Rémi là-dessus. Alors, Pascal, on va prendre le côté plus humain aujourd'hui de cette guerre en Iran.
Elle s'appelle Nazila Maroufian. Puis, tu sais, on dit qu'elle est journaliste politique juste parce que, en fait, tout ce qui est cercle islamique le qualifie ainsi, parce qu'elle veut dire des choses qui se passent dans son pays. Mm-hmm. Fait que dans notre pays à nous, elle serait juste une journaliste normale.
Exactement.
Et là, elle devient une journaliste politique à cause de ça. Puis, c'est ça, on a décidé de faire un dossier avec l'un de nos collaborateurs aujourd'hui. Fait que mon dossier, ce sera en compagnie de Rémi.
En plein ça. Donc, c'est le côté plus humain. Et on va parler d'actualité locale, parce qu'il faut toujours en parler et on en parle tout le temps, on en jase, on est branché sur Québec, c'est une émission branchée sur Québec. On va voir les copropriétaires du groupe Maestro, c'est qui ça? L'atelier Ophélia, Mora, Alexandre Grenier, Fabio Monti qui vont venir nous parler des travaux du tramway qui vont leur faire perdre en revenus par semaine. Vous êtes bien assis, madame? 251 000 $.
Aïe, aïe, aïe.
dans une industrie qui souffre énormément.
Exactement.
Et qui le clame depuis longtemps, en plus avec la pandémie qui les a vraiment fait mal, sur le fait qu'ils sont les oubliés du gouvernement.
Mm-hmm.
Dans ces projets-là, puis on a vu ça aux abords des ponts. Nicolas Cortina, entre autres, j'ai suivi ça tout l'automne pour vous. Je faisais des clips, on en jasait, ouais. On en jase, qui ont été impactés par des travaux et qui ont mené à la fin de certains restaurants.
Exactement. Et Alicia Despins, notre chroniqueuse municipale, sera là également. On va parler de Lévis qui a déjà dépensé 52 000 $ en avocat pour se défendre de la poursuite sur le moratoire. Donc, vous n'avez pas fini de payer à Lévis. Je vous le rappelle, 418-971-1001, le numéro pour interagir avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Également, blvd.fm, c'est la web radio. C'est les meilleurs moments de l'émission qui s'y retrouvent après l'émission. BLVD 102.1 disponible sur App Store, Google Play Store. Téléchargez immédiatement justement cette application. twitch.tv/blvd/fm pour venir nous voir. Abonnez-vous également à notre page YouTube. Le caucus avec Antonine Iacarini s'y retrouve à chaque jour. Et haut-parleur intelligent, dites écoutez BLVD et c'est ce que vous allez entendre dans vos oreilles. Pascal, en manchette, ça brasse pas à peu près dans le conflit en Iran. Et là, il y a de fortes explosions qui ont été entendu à Doha et à Dubaï.
Je te parle de cette quatrième journée de la guerre au Moyen-Orient. Là, oui, effectivement, on a eu des explosions qui ont été entendues au Qatar, aux Émirats arabes unis. Ça avait fait beaucoup réagir en fin de semaine. On se disait, ben voyons, je comprends que ça peut être des endroits où il y a des bases américaines ou qu'il y a des choses américaines. Mais encore là, c'est aussi un acte de semi-guerre, si on veut, de venir mettre ces pays-là dans la loupe américano-israélienne et iranienne qui s'affrontent en ce moment. C'est pas au même titre que le Liban, par exemple, où il y a l'Hezbollah qui est super présent et qui s'est dit ouvertement prêt à défendre l'Iran. Ce sont des endroits qui hébergent du militaire américain, mais qui n'ont pas ce même genre de coltaillage que l'on voit avec les autres pays. Alors, c'est sûr que c'est énormément pointé du doigt et la guerre fait ses premières victimes. On parle encore des victimes américaines. Donald Trump aussi envisage une opération, vous le savez, sur plusieurs semaines, peut-être même qui dépassera le mois. Chaque camp affiche sa détermination. On veut coûte que coûte, gagner aux façons morales et militaires ce qui est en train de perdurer comme conflit. Et l'économie va venir jouer assurément énormément dans tout cela. Sinon, un petit peu plus localement, au pénitencier de Donnacona, on a appris qu'un meurtrier qui aurait tué un autre détenu. Alors ça, c'est arrivé tout récemment. Altercation qui est arrivée hier soir. Individu qui est maintenant reconnu coupable d'un meurtre commis à Ottawa en 2020 qui aurait causé la mort d'un co-détenu au pénitencier de Donnacona dans Portneuf. Alors ça lui fait pas une belle jambe. Hier, 22h, c'était dans le gymnase de l'établissement qui, je vous rappelle, est à sécurité maximale, où les autorités ont refusé de dévoiler quel type d'arme, s'il y en avait une, qu'est-ce qui a été utilisé dans cette affaire-là. Mais on dit que la victime est âgée dans la vingtaine. Elle a été transportée dans un centre hospitalier pour des blessures graves et son décès a finalement été constaté. On n'a pas beaucoup de nouvelles dans les circonstances exactes qui ont mené à la bagarre. Mais je vous ramène aux entrevues que l'équipe de l'Open Mic fait une semaine sur deux avec un ancien gardien de prison qui sont fort intéressantes. Et la dernière qu'ils ont fait parle un peu de cette violence-là dans les prisons. C'est toujours disponible au blvd.fm. Un Canadien sur 10 se prendrait l'Ozempic et l'intérêt n'est pas prêt de s'estomper. Je vous parlais il y a quelques semaines du fait qu'on est en train de travailler sur des génériques d'Ozempic et ça fait énormément jaser. Ça rendrait le médicament d'autant plus éligible à bien des gens parce que souvent, on va essayer de le prioriser à ceux qui font du diabète. Mais pour la perte de poids, ça devient de plus en plus populaire. Les génériques pourraient faire défoncer ces chiffres-là à travers les prochaines mois, nouveau sondage qui révèle qu'environ 3 millions de Canadiens prennent le populaire médicament ou ses dérivés.
Merci beaucoup, Pascal Sévin. On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iacarini. Ça brasse en Iran, pas à peu près. Là, Donald Trump est en train de recevoir justement le chancelier allemand Frédéric Merz. C'était une rencontre prévue depuis longtemps à la Maison-Blanche. Et là, ça me fait sourire parce qu'on était censé parler de la guerre en Ukraine.
Oui.
Là, il y a le conflit en Iran.
Mm-hmm.
Comment Donald Trump va faire pour dire « je m'implique pas en Ukraine » contre un régime totalitaire qui est la Russie, qui veut prendre du territoire? Mais je m'en vais brasser l'Iran qu'un régime similaire.
D'abord, je mettrais quelques nuances.
Vas-y, t'es là pour ça.
La Russie, je ne qualifierais pas, je dis pas que c'est merveilleux et que c'est un oasis de bonheur démocratique à tous les instants, mais je ne qualifierais pas la Russie de régime totalitaire. Okay. C'est un régime qui est autoritaire, qui est autocratique jusqu'à un certain point.
Hey, fais-moi donc la différence entre totalitaire et autoritaire. J'ai l'impression que je le mélange.
Oui, puis c'est normal. Un régime totalitaire, premièrement, il n'y a pas d'élection. La première des choses. Les élections en Russie, c'est arrangé avec le gars des vues, mais il y a quand même des élections.
Okay.
Les médias russes ont une forte influence du gouvernement, mais ne sont pas directement contrôlés par le gouvernement. Dans
Parfait.
Un régime totalitaire, par exemple, en Corée du Nord ou à l'époque de l'Allemagne nazie, les médias étaient largement contrôlés par le gouvernement lui-même. Il n'y a pas de diversité d'opinion, il n'y a pas de liberté de presse du tout. Dans un régime totalitaire également, il y a un aspect même où le leader devient presque un dieu, là. Okay. Vladimir Poutine est tout puissant. Il a construit, il a rendu de plus en plus autoritaire son régime au fil des ans. Quand on pense, par exemple, après la chute de l'URSS, il y a eu des élections, il y a un premier président démocratiquement élu, Boris Yeltsin. On est passé dans toutes ces années-là, depuis le début des années 90, à un régime qui est retourné vers de l'autoritarisme, beaucoup comme à l'époque de l'URSS, finalement.
Le totalitaire, là, celui qui est à la tête est plus fort que son parti.
Absolument. Puis il y a Parfait. Un culte même de la personnalité dans un régime totalitaire. Je dirais que M. Poutine flirte avec ça, mais en Iran, on parle d'une théocratie. Donc, quand on dit théocratie, ça veut dire que c'est des leaders religieux qui sont à la tête de l'État. Et la religion, dans le cas de l'Iran, est interloquée là, avec tout ce qui est politique. Donc, c'est un peu différent. Mais je pense qu'un régime comme celui en Russie est non démocratique, évidemment, et qui peut faire l'objet de critiques. Et aussi, la différence entre la Russie et l'Iran, c'est que la Russie a attaqué directement un autre État sous des prétextes très, très discutables. Alors que l'Iran, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que du côté de l'Iran, on va aller sponsoriser des organisations terroristes dans la région. On s'en prend à Israël. Israël est entouré de pays dans lesquels...
Avec le Hezbollah, entre autres. Là, et on le voit justement dans les attaques qui sont faites, non seulement en Israël, mais sur les bases américaines maintenant qui sont justement qui ont un pied à terre au Moyen-Orient.
Donc, pour répondre à ta question, maintenant que j'ai pris un petit détour d'explication sur les régimes non démocratiques, je te dirais que les différences sont énormes entre l'Ukraine et l'Iran. D'aller se battre contre la Russie qui est en guerre, elle, contre l'Ukraine, c'est très, très différent que d'aller faire des frappes aériennes en Iran conjointement avec Israël, qui est l'allié des États-Unis. On serait vraiment dans une autre situation complètement. Ça serait deux grandes puissances qui se battent l'une contre l'autre.
Qui ont chacune l'arme nucléaire.
Et qui ont chacune l'arme nucléaire. Donc, c'est comme si la guerre froide et la crainte pendant la guerre froide que les grandes puissances finissent par s'affronter directement se concrétiserait. T'sais, à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans le monde, on se demande toujours si c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence. Bien, là, ce serait définitivement
la Troisième Guerre mondiale.
Alors qu'en Iran, c'est un régime qui est plus faible. C'est un pays qui est plus faible que la Russie, évidemment, avec des institutions très, très différentes. D'avoir ces attaques conjointes des États-Unis et d'Israël, c'est un pays qui est maintenant déjà très affaibli. Alors que se battre contre la Russie, ce serait une autre paire de manches.
C'est beaucoup ce qui est évoqué parce que, bon, ils définissent l'Iran comme étant un pays de résilience. Fait que des gens qui ont été capables de surmonter des difficultés militaires ou des attaques et des choses comme ça, mais qui ne pourraient pas tenir extrêmement longtemps. Leur seul point de mire là, pour continuer de survivre, c'est attaquer l'économie.
Et autre élément, Jeff, avant qu'on,
oui.
peut-être qu'on passe à un autre angle, c'est que les Américains sont prêts à accepter jusqu'à un certain point, parce que ça fait quand même l'objet de critiques, que les États-Unis participent à des frappes aériennes ciblées dans certains pays. Puis déjà, ça fait débat aux États-Unis. Mais si les États-Unis devaient entrer en guerre contre la Russie, le côté isolationniste des Américains, ça ne passerait jamais politiquement. Puis j'ajoute aussi que Donald Trump, je pense qu'il l'admire jusqu'à un certain point, Vladimir
là.
Poutine. Là.
Donc, à cet effet-là, ça n'arrivera pas. Là, tu touches un point intéressant qui est les Américains, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que hier, on l'a vu, quand on rassemblait trois gros sondages, 43 % des gens étaient contre l'intervention en Iran. 29 % disaient « Bon, ça me fait ni chaud ni froid. » Puis 27 % seulement étaient en accord. Et parmi les réponses qu'on obtenait, bien, les gens disaient « Moi, je suis en désaccord parce que j'ai peur qu'on fasse un Irak 2. J'ai peur qu'on soit dans un Afghanistan 2. »
Un Vietnam 2.
Laissons donc ce qui se passe l'autre bord de l'océan, ceux qui sont l'autre bord de l'océan, puis occupons-nous de l'Amérique. Tout le contraire qu'on a vu lorsqu'on a capturé justement Nicolas Maduro, où les Américains sont en faveur de ce geste-là.
Le peuple américain n'est pas très favorable à ce qu'on fasse des opérations militaires à travers le monde. Ça peut sembler un peu contre-instinctif parce que les États-Unis jouent le rôle de gendarme du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Par contre, via l'OTAN, ils n'ont pas... seul au monde, comme ils le font à l'heure actuelle.
Ça dépend. Puis l'Irak, c'est un bon exemple. Parce que les États-Unis avaient eu beaucoup de difficultés à convaincre les alliés de
Bien, même le Canada n'est pas allé.
Le Royaume-Uni est allé. Mais bref, on est allé un peu au cas par cas dans ce cas-ci. Puis il faut dire aussi que les Américains sont restés quand même marqués par l'Irak parce qu'on est allé d'abord en guerre sous des faux prétextes. Donc déjà, il faut dire les vraies choses.
Il fallait détruire les armes de destruction massive. Mais il n'y en avait pas.
Et on se souvient Colin Powell, à l'époque, qui était allé là, devant l'ONU et essayer de convaincre tout le monde qu'il y avait des armes de destruction massive. Je me rappelle, il y avait des petits pictogrammes là, où est-ce qu'il nous expliquait. C'est vraiment un petit peu gênant. Et finalement, on n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive. Et surtout, on s'est embourbé dans un conflit qui n'en finissait plus de finir. Puis, la différence entre l'Iran et l'Irak aussi, c'est qu'en Irak, le dictateur, Saddam Hussein à l'époque, tenait des peuples qui ne s'aimaient pas à l'interne. Okay? Donc, il y avait déjà beaucoup de tensions à l'intérieur même du pays et il y avait une dictature très, très dure en Irak, mais qui tenait tous ces gens-là un peu tranquilles. Une fois qu'on a retiré Saddam Hussein de là, tout a pété.
C'est ça.
Et c'est ce qui s'est passé dans les années subséquentes. Et on se retrouvait avec non seulement de la guerre civile en Irak, tout le monde se battait les uns contre les autres, mais aussi avec une vague de terrorisme et une forme de guerre face à laquelle les armées ont beaucoup plus de difficultés à performer, à être outillées. De la guérilla, du terrorisme, c'est pas comme deux armées là, qui s'affrontent. Évidemment, l'armée américaine est hyper puissante et c'est là que les services secrets deviennent hyper importants. Et je fais le lien avec l'Iran. C'est un peu la même chose, la même situation. C'est qu'éventuellement, si on veut vraiment établir un changement durable en Iran, c'est beaucoup aussi les services secrets qui vont jouer un rôle important, beaucoup plus que l'armée éventuellement. Parce qu'on a besoin d'avoir de l'intelligence sur le terrain, d'être capable d'être à même de mettre des bases solides à un nouveau régime. Mais on n'a pas préparé le terrain du tout dans les dernières années à ça. Donc, ça nous semble une opération qui sort un peu de nulle part en Iran. Et même, on entendait Benjamin Netanyahou donner des entrevues. Il s'est fait poser la question, le premier ministre israélien, est-ce que c'est vous qui avez entraîné les États-Unis un petit peu de manière précipitée là, dans ce conflit-là? Et il s'est contenté de faire un grand sourire et de rire un peu par rapport à cette question-là.
Est-ce que c'est un peu un combat inachevé aussi du premier mandat de Donald Trump? Parce que ça avait été des situations très tendues avec l'Iran lors de son premier mandat. Et autre question qu'on a souvent des auditeurs, c'est le pétrole qui fait foi de tout?
Bien, le pétrole fait toujours partie de l'équation. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a vraiment une dynamique d'alliance entre les États-Unis et Israël. Israël, c'est un pays qui est entouré de pays hostiles. Israël peut aussi faire l'objet de reproches sur pourquoi il y a de l'hostilité. Là. On peut débattre de ça pendant très longtemps. Mais le but de l'opération, c'est pour Israël, c'est d'assurer d'affaiblir ses adversaires autour de lui. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut affaiblir le régime iranien qui sponsorise des organisations, des milices qui souhaitent en fait ni plus ni moins que la destruction d'Israël. On ne parle pas là, de vouloir négocier pour des ressources ou prendre un petit bout de territoire. On parle de détruire Israël. Et on veut couper les têtes de serpents, en fait. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc, on fait des frappes aussi au Liban pour aller affaiblir le Hezbollah. Donc, les États-Unis... oui, ils vont avoir de l'intérêt pour le commerce international, pour le pétrole, mais on veut aussi aider notre allié à se protéger, à garder un certain contrôle dans la région. C'est un peu compliqué, mais de faire des opérations comme celle-là, économiquement, à court terme, c'est pas très intéressant. Mais c'est vraiment plus un aspect géopolitique dans la région, puis de s'assurer que des États qu'on considère du point de vue de la perspective des États-Unis et Israël comme étant voyous, de les affaiblir.
On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment de l'émission On en jase du lundi au jeudi de 12h05 environ, 12h30. On revient en solde canadien, Antonine, parce que j'ai été très surpris ce matin d'apprendre via le Nouvelliste. C'est passé sous le radar. Mm-hmm. Et des fois, les gouvernements essayent de nous en passer une petite vite comme ça.
Oui.
Sous le radar. Que maintenant, les entreprises autochtones sont priorisées dans les contrats du gouvernement canadien. Donc, pour les contrats de 250 000 $ et moins, on va prioriser les entreprises autochtones. J'ai plein de questions là-dessus. Puis la première est vraiment d'ordre économique, dans le sens que si moi, je te dis déjà, « Hey, Antonine, sais-tu, tu n'auras pas beaucoup de compétition parce que c'est juste les entreprises autochtones.
Ouais.
Puis c'est 250 000 le plafond. Il y a des chances que tu me bêtes ça à 249 000 $ même si ça vaut 215 000. Je trouve qu'au niveau économique, de un, c'est pas un bon geste. Je me trompe-tu?
Non, je suis assez d'accord avec toi. Puis il faut dire aussi que c'est pas juste prioriser. OK? Je vais plus loin.
Ouais.
C'est donner une exclusivité aux entreprises autochtones.
Donc, une obligation gouvernementale de faire affaire avec des entreprises autochtones.
Pour les contrats d'approvisionnement de moins de 250 000 $ Je ne comprends pas. On peut prioriser, hein? Puis on peut essayer de faire des partenariats avec des entreprises autochtones, bien sûr. Mais pourquoi aller vers l'exclusivité? J'ai un petit peu de difficulté à comprendre sur le fond des choses. Et maintenant, sur la forme, on a un gouvernement ici qui... Bon, premièrement, le gouvernement Carney est différent du gouvernement Trudeau. On était dans des années là, où on insistait beaucoup sur la réconciliation avec les peuples autochtones. Mm-hmm. On a des pages très sombres de notre histoire avec nos relations entre le fédéral et les peuples autochtones. On considère qu'il y a une réconciliation fort bien. On veut amener davantage de développement socio-économique chez les Autochtones. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand Mark Carney est arrivé, les priorités ont changé. On était moins dans ces discours-là. Et avec les projets de loi qui ont été adoptés au début du mandat de Carney, il y avait le projet de loi C5 qui vise à accélérer les projets majeurs au Canada. Et les Autochtones se sont sentis, je généralise, mais c'était assez généralisé, se sont sentis bousculés là-dedans, non consultés. Ils se sont dit, OK, personne ne nous a parlé avant, ce projet de loi-là a été adopté à toute vitesse. Ils sont demeurés très fâchés à la suite de l'adoption. Donc, est-ce qu'on est en mode rattrapage au gouvernement fédéral?
Ça ressemble vraiment à ça.
Bien, premièrement, le rattrapage puis le rétropédalage, c'est sûr que c'est pas très efficace comme manière de fonctionner. Mais en plus, quand tu lis l'article dans le journal La Tribune, tu te rends compte que ça fait pas non plus l'affaire tant que ça des entreprises autochtones. Parce qu'ils disent, bien, premièrement, nous, personne nous a consultés. Donc là, tu te fais dire, vous nous consultez pas pour passer votre projet de loi C5. Fait que là, dans ton rétropédalage, tu consultes pas non plus. C'est parce qu'il faudrait peut-être comprendre.
Ça va pas bien, là. C'est mal géré, on s'entend-tu?
Donc, ça va donner toujours le même résultat si vous faites des politiques publiques qui concernent les peuples autochtones sans consulter les Autochtones. Ça me semble logique. Et là, ça fait vraiment une annonce, entre guillemets, je la mets annonce parce qu'on n'a vraiment pas fait d'annonce. Ça a passé un peu sous le radar, comme
tu dis. Bien, c'est ça. On a passé une petite vite pour pas que personne s'en rende compte.
Bien, parce que ça allait faire des vagues, évidemment. Et ça fait des vagues des deux côtés. Personne n'est content. Donc, c'est perdant sur toute la ligne. Donc, cette opération-là n'est pas un grand succès.
C'est plate parce qu'il y en a bien des communautés qui sont prêtes à collaborer d'une autre manière que ce qu'on voit souvent de violence, etc., etc. Puis un des meilleurs exemples que j'ai eu dans les dernières années, quand je suis allée au Nunavik, ça vient de sortir la semaine passée, mais tu sais, la nouvelle, moi, je l'avais là, depuis un an, c'est la mine qu'ils veulent développer avec les minéraux les plus importants dans le monde pour développer la technologie. Puis les Russes et les Américains sont super intéressés. Jeff Bezos, il veut la main là-dessus et tout ça. C'est d'une partie de territoire qui est autant gouvernementale qu'Inuit, mais ils savent, les Inuits, que c'est bon pour l'économie canadienne. La seule chose qu'ils demandent, c'est de trouver un compromis pour ne pas trop nuire à la chasse et la pêche, parce que quand il y a des blizzards au Nunavik, ils n'ont pas de livraison. Ça veut dire que ça peut faire en sorte de créer une certaine famine. Ils veulent. Ils veulent le faire. Il y a des pourparlers qui sont capables d'être faits. Mais pour ça, il ne faut pas toujours aller dans l'extrême ou dans l'autre. Puis ça, on ne dépeint pas souvent ce genre de relations-là entre le gouvernement puis les communautés autochtones.
Puis c'est des relations qui sont compliquées. Mais il me semble que c'est évident que s'il n'y a pas du tout de consultation, ça ne donnera pas un bon résultat. Exact. Après ça, on peut débattre qu'il y a certains... Tu sais, il y a eu des dossiers dans lesquels les négociations ou les consultations, ça, c'est comme si on ne réussissait jamais à donner satisfaction.
À trouver le terrain d'entente,
mais faut pas
la
tomber dans l'autre.
Il ne
faut pas plus tomber dans l'autre.
Puis on est bon,
nous autres,
avec les syndicats là-dessus aussi.
Exactement. Hey, on termine avec nos dirigeants canadiens. C'est des grands voyageurs, Crème.
Oui, des Globetrotters.
Mark Carney est en Inde. Là, il est rendu en Australie. Bon, où va-t-il aller après? On ne le sait pas. Pierre Poilievre, toi, qui pour la première fois de son histoire comme chef de l'opposition, dit « Ah, ce serait peut-être bon que j'aille en Angleterre puis en Europe. Allô, Pierre Poilievre! »
Mais là, parce que...
Êtes-vous dans le game ou non?
C'est moi ou ça arrive un peu tard?
Ben, ça arrive bien trop tard. Puis là, ben, tu sais, je le sais pourquoi il le fait et tu le sais. Puis on va l'expliquer aux auditeurs, mais les auditeurs le comprennent aussi. On est intelligents, les auditeurs de Boulevard 102.1. Il le fait parce que Mark Carney a gagné des élections en disant « Checkez-moi bien à l'œil. Moi, je vais diversifier l'économie. Moi, je vais faire face à Donald Trump. » Et là, il va avoir d'autres élections. C'est un gouvernement minoritaire. Donc, toc, 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 Pierre Poilievre s'est levé de son lit et a dit « Ouais, faudrait bien que j'aie une crédibilité au niveau international. »
Bien, minimalement, une posture claire en la matière. Parce que là, ça fait un an que Mark Carney est là, à peu près. Ça fait un petit peu plus qu'un an que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche et que tout a changé. Et quand on posait la question, tu sais, on reçoit souvent des députés conservateurs ici. Oui. Ça nous fait plaisir d'avoir leur perspective et de jaser avec eux. Mais j'ai toujours de la difficulté à comprendre, face à la question, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir? Puis, tu sais, des fois, on
attends,
peut dire...
je vais te dire leur réponse, parce qu'on a reçu... On a reçu Pierre Paulus, on a reçu Gabardi, des gens que je respecte énormément, mais je vais te dire leur réponse. Bien là, on n'est pas encore au pouvoir. Puis, tu sais, oubliez pas, Mark Carney avait promis qu'il gérait Trump. Il gère-tu? Il gère pas?
Bien, c'est bien correct, les lignes politiques, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux que les gens votent pour toi, il faut quand même qu'ils comprennent pourquoi ils votent.
Exactement.
La chair autour de l'os.
Un petit peu de chair autour de l'os.
Mais c'est trop peu trop tard pour bâtir une crédibilité, parce que, je veux dire, il aurait dû bâtir ça et il avait le temps. Puis là, je veux pas trop jouer au stratège politique parce que j'en suis pas un. Toi, t'en as déjà été une. Je vais te poser la question. Quand t'es à 50 % d'un sondage, ton adversaire, c'est Justin Trudeau. Puis quand Justin s'en va en Inde, il se déguise. Ben toi, va en Inde, en homme politique, puis crée des contacts.
Exact.
Installe tout de suite ta crédibilité. Ça fait 3 ans qu'il savait qu'il serait le futur premier ministre.
Tu sais, la question des voyages puis des missions commerciales, c'est sûr que c'est pas le rôle d'un chef de l'opposition de faire ça temps plein. Et M. Poilievre a toujours eu une posture Canada d'abord, très domestique, très locale. Moi, je m'intéresse au portefeuille des Canadiens. Non, non, non. C'est bien correct. C'est juste que depuis un an, l'actualité et les priorités politiques sont toutes dirigées vers l'international. Et sans en faire quelque chose de temps plein, c'était vraiment un éléphant dans la pièce. En fait, c'est l'éléphant qui n'était pas du tout dans la pièce parce que c'était zéro. Et là, M. Poilievre, bon, nous a annoncé un peu plus sa stratégie, lui, ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il faut faire avec les États-Unis. On a eu un petit peu plus de détails, il a donné un discours à Toronto la semaine passée, dans lequel, notamment, on nous dit qu'il faut... Ben, puis d'ailleurs, M. Poilievre est en voyage en ce moment, il a ajouté un petit peu, justement, de chair autour de l'os, nous dit notamment que lui, les minéraux critiques et stratégiques, ce serait presque exclusivement avec des pays alliés. Mm-hmm. Très intéressant, parce que c'est vrai que M. Carney, en ce moment, se tourne vers des pays avec lesquels on a des enjeux. Tu sais, la Chine, c'est un pays avec lequel on a des enjeux. Ingérence étrangère, espionnage. On a eu beaucoup de tensions dans les dernières années avec les deux Michael qui avaient été emprisonnés. Et là, on se tourne vers l'Inde. L'Inde aussi pose certains problèmes.
Oui.
Il y a eu de la criminalité en sol canadien.
Il y a eu de l'ingérence.
Mais en même temps, là, l'Inde, là, ça va être la troisième économie mondiale d'ici 2030.
Ben, c'est 1,5 milliard d'habitants.
Et c'est quand même une démocratie.
C'est ça.
Donc là, définir ensemble c'est quoi un allié, j'ai de la difficulté à dire que l'Inde doit être complètement mise de côté. Est-ce qu'on aimerait mieux faire affaire avec l'Australie, puis l'Angleterre, puis la France, bien sûr?
C'est clair.
Mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment diversifier notre économie?
Ben, la réponse est non.
La réponse est non.
Si on veut vraiment diversifier notre économie, malheureusement, ça va passer par la Chine et l'Inde, parce que tu viens de parler des trois puissances économiques. États-Unis, Chine, Inde. Si t'en perds aux États-Unis, et ça, tu vas te tourner vers les deuxièmes et troisièmes.
Puis honnêtement, l'Inde, c'est plus intéressant en termes politique. Économique, la Chine, c'est vraiment un incontournable.
Oui, mais...
Mais l'Inde, c'est une démocratie qui est assez stable. On a une histoire commune quand même avec l'appartenance au Commonwealth. Il y a une proximité historique à défaut d'avoir une proximité qui est géographique. Donc, M. Poiliev développe un peu sa pensée. Ça arrive un peu tard. En même temps, je me dis, il ne peut pas quand même changer toute sa personnalité. Ça ne fait pas partie de lui.
Exactement.
M. Carney, lui, là... Son CV, son parcours, ce qu'il est, son expertise, c'est comme si c'était naturel. Le contexte géopolitique et politique canadien était tout désigné pour avoir un Mark Carney qui arrive, alors que M. Poiliev, c'est plus un politicien de métier, c'est un bagarreur, c'est un très bon chef de l'opposition.
Ouais.
Mais c'est comme s'il avait de la difficulté à finir sa métamorphose pour devenir premier ministrable. Et là, j'ai l'impression qu'on fait ça un peu en urgence. C'est pour ça que je pense qu'on n'ira pas en élection d'ici les prochains mois.
En effet, parce qu'il
n'a aucun
trop...
intérêt.
Ben, c'est ça, il faut trop que Pierre Poiliev tente d'installer cette nouveauté-là. On lui a enlevé là, son image de gars dur, on l'a amené avec sa femme, ses enfants, le gars de famille, petite maison, un petit lopin de terre, on l'a rendu plus people, mais là, il faut le rendre maintenant crédible.
On lui a enlevé ses lunettes.
Oui,
on
exactement.
On le voit souvent en T-shirt. T'sais, il y a comme une transformation d'image.
Oui, Gabardine nous a dit d'ailleurs que c'était une machine
d'entraînement. Absolument.
Jean-Pierre nous dit que Poiliev fait juste se sauver de son caucus.
Ah, ça se peut aussi.
Pascal, tu avais quelque chose en terminant?
C'est un mini clin d'œil par rapport à l'Inde puis ceux qui courtisent en fait le pays en ce moment parce qu'il y a quelque chose aussi intéressant au niveau du choix qu'aura à faire le Canada là-dessus parce que l'Inde a des conflits, entre autres avec le Pakistan, mais aussi avec la Chine. Alors, à un moment, si Mark Carney, c'est normal, travaille sur tous les pans, est-ce qu'il va avoir à choisir entre sa blonde puis sa maîtresse, sa femme puis sa maîtresse? Au niveau économique, moi, je surveille ça de très près.
Mais même avec les États-Unis, faire affaire avec la Chine n'est pas sans conséquence aux États-Unis.
En effet.
Mais étant donné que le jeu d'alliance est un peu en transformation, moi, je dois dire, je donne pas toujours des compliments à M. Carney, à ses défauts aussi, mais je dois dire que d'ouvrir des fenêtres, ouvrir des nouvelles possibilités commerciales, c'est la chose à faire. Après ça, ça ne veut pas dire que tu mets tous tes œufs dans le même panier nécessairement. Mais en ce moment, c'est ce qui est attendu de sa part, puis de livrer des résultats avec des ententes commerciales qui nous permettent de compenser ce qu'on est en train de perdre avec les États-Unis. Et sur Pierre Poiliev, tu sais, je vais faire un clin d'œil à ce que l'auditeur nous a dit sur son caucus. À quelque part, même si c'est tannant de perdre des députés qui font défection, je pense que les conservateurs ont presque avantage à ce que M. Carney aille chercher sa majorité sans élection. Parce que de partir en élection en ce moment, avec les sondages qu'on connaît, M. Carney, ça va très bien, ses sondages présentement. Et avec un Pierre Poiliev qui essaie de compléter sa transformation, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il a besoin de temps. Je me dis, regarde, là, que les libéraux gagnent Rosemont si M. Boulris s'en va, gagnent Terrebonne quand l'élection partielle va être déclenchée. Puis si ça me permet de perdre la possibilité que le gouvernement tombe à tout moment, peut-être finalement que ça me donne le temps de me réorganiser.
Je suis très d'accord avec toi. Antonine Iaccarini, on t'entend du lundi au jeudi dans l'émission On en jase à chaque semaine de 12h05 à 12h30. Merci pour ton excellent passage. On t'écoute dans le retour avec Véro et Audrey.
Yes.
Après cette courte pause à Boulevard 101, on va faire trois choses différentes. Premièrement, on va faire un bloc de nouvelles complet. On va parler avec l'artiste d'origine libanaise qui a quitté le régime en Iran, Bahram Banyamadi, et on va également parler avec les copropriétaires du groupe Maestro qui possèdent les restaurants L'Atelier Ophélia et Mora, c'est-à-dire Alexandre Grenier et Fabio Monti, concernant les travaux du tramway qui pourraient leur faire perdre jusqu'à 251 000 $ en revenus par semaine. C'est ce qui vous attend dans un instant à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.